une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
Pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
J'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
C'est un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles. Et cette année, je me suis entouré d'une team de journalistes éco pour décortiquer avec moi encore plus de sujets. Aujourd'hui, on va parler de milliardaires, de prêts garantis par l'État et de Bernard Tapie. On se demande tout simplement ce que viennent chercher dans le football français et européen ces personnalités et fonds d'investissement d'outre-Atlantique. Et pour ça, je laisse la parole à quelqu'un qui connaît bien mieux le foot que moi, Adrien Schwitter. Salut Adrien, tu peux nous dire qui tu es ?
Bonjour Emmanuel, je suis journaliste au magazine Challenge depuis 6 ans. Je m'intéresse à la tech et au sport sous l'angle économique. Et entre le métavers et la Coupe du Monde au Qatar, on va avoir des choses à raconter cette année.
Et cette semaine, tu vas nous parler des rachats de clubs de football qui se multiplient.
Effectivement, on va s'intéresser au sport le plus populaire de la planète. L'opium du peuple pour certains. Le ballon rond demeure central, avec une audience estimée à 4 milliards de fans. Pas loin de la moitié de la population mondiale. Les audiences de la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe Rennes, ne cessent de croître en France. Le football n'a jamais aussi bien porté son surnom de sport roi. Depuis une dizaine d'années, il est devenu un objet encore plus politique. Le rachat de clubs comme le PSG par le Qatar ou Manchester City par les Émirats Arabes Unis ont été faits dans le but de gagner une respectabilité et de l'influence. On parle de soft power. Permettant par la suite la conclusion de contrats et de rapprochements. Le Qatar a ainsi acheté 36 Rafales à la France entre 2015 et 2017.
Désormais, ce ne sont plus seulement des pays du Golfe qui achètent des clubs, ou de riches industriels français qui veulent assurer une notoriété à leur petite entreprise. Les Américains débarquent en force.
Pourquoi les Américains achètent-ils nos clubs de foot ? Les supporters des clubs de Ligue 1 le savent bien. Depuis quelques années, les rumeurs se multiplient. Outre le PSG, chaque club peut être potentiellement racheté du jour au lendemain. L'Olympique de Marseille a ouvert le bal en 2016. Il appartient à l'homme d'affaires de Boston, Frank McCourt, qui pour l'instant a surtout perdu de l'argent depuis son arrivée. Et puis surtout, il y a désormais l'Olympique Lyonnais.
Welcome John. We are very happy.
Si Jean-Michel Aulas, président du club de Lyon depuis 87 que vous venez d'entendre, est vraiment très content, c'est qu'il est en passe de vendre l'OL pour 800 millions d'euros à John Textor, un homme d'affaires américain ayant fait fortune dans les nouvelles technologies. Un beau pactole. Une bonne nouvelle bienvenue pour une Ligue 1 en crise.
Eh bien oui, on a donc vu ce John Textor américain jovial et bronzé de 56 ans qui a fait fortune dans les effets spéciaux pour le cinéma américain et qui possède déjà plusieurs clubs, un au Brésil, un en Belgique et un en Angleterre, Crystal Palace. C'est donc lui le nouveau boss de l'OL puisqu'il va bientôt racheter 66% des parts du club.
Mais revenons un peu en arrière afin de comprendre tout ça. Si les investisseurs peuvent racheter de nombreux clubs en ce moment, c'est que le football français a vraiment besoin d'argent. Dans le football, pour payer des salaires mirobolants aux Neymar, Mbappé et des montants de transferts faramineux, il faut rentrer beaucoup beaucoup d'argent. Et depuis 30 ans, la principale source de revenus des clubs français, c'est la télé. Ce sont les droits payés par les diffuseurs afin de retransmettre la compétition. Pour la période 2015-2019, Canal+ a payé un peu plus de 700 millions d'euros par an à la Ligue, la LFP, qui fait ensuite ruisseler ce pactole au club en fonction de leur classement. Tous les 4 ans, la LFP lance un appel d'offres pour les 4 prochaines saisons. Et le 29 mai 2018, le champagne est sabré. Le directeur général de la LFP, Didier Quillot, est aux anges. Il tient un deal en or. Il tient le sésame, 1 milliard d'euros par an. Alors inconnu en France, l'espagnol Mediapro décroche le gros lot pour 800 millions d'euros. Il diffusera 8 matchs chaque week-end de championnat. Au total, les chaînes paient 1,2 milliard d'euros par an pour retransmettre des matchs pour la période 2020-2024. C'est 60% d'augmentation par rapport à ce que Canal payait précédemment. Ce dernier n'est d'ailleurs pas ravi de s'être fait devancer par Mediapro. Et son patron, Maxime Saada, ne s'en cache pas.
Si vous voulez, à ces prix-là, c'était complètement déraisonnable. C'était impossible pour nous de miser de telles sommes. Et d'ailleurs, je crois que c'est impossible pour un quelconque acteur de miser de telles sommes et de les rentabiliser.
Avance rapide. 2 ans et demi plus tard, Maxime Saada avait vu juste. Mediapro a surpris son monde pour shipper la Ligue 1 à Canal. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. De nombreux experts doutent de la viabilité de Téléfoot, la chaîne de Mediapro, avant même le début de la diffusion. La chaîne est lancée au cours de l'été à un prix très important. 26 euros par mois.
On a tenu toujours tous nos engagements. Mediapro, ce n'est pas 4 mecs et filles dans une chambre. Mediapro, on a 25 ans, on a 7000 personnes qui travaillent à la maison, on a un chiffre d'affaires de presque 2 milliards. On n'est pas n'importe qui.
Dès la rentrée 2020, Mediapro règle ses premières échéances du contrat avec du retard, avant très rapidement de ne plus payer du tout, puis de demander une renégociation dans l'urgence du contrat. Il devait durer 4 ans. Mediapro visait 3,5 millions d'abonnés pour Téléfoot. En réalité, elle atteindra à peine les 600 000. La chaîne s'arrêtera en France à peine 6 mois après son lancement. Conséquence directe, les clubs de foot français sont en panne sèche et s'avancent vers la faillite. Les droits télé, c'est en moyenne 70% de leurs revenus. Sans eux, c'est très difficile. D'autant que les 10 à 15% qui proviennent habituellement de la billetterie sont aussi stoppés avec la pandémie. C'est donc environ 80 à 85% du chiffre d'affaires qui, du jour au lendemain, disparaissent totalement.
Mais alors comment font-ils pour survivre? Pour continuer de payer les salaires?
Ils appellent l'État à l'aide. Pour la saison 2020-2021, ils prévoyaient un déficit de 1,3 milliard d'euros. En définitive, les clubs de Ligue 1 perdront sur cette saison 646 millions d'euros, après avoir déjà perdu 269 millions d'euros lors de la saison précédente. Les actionnaires ont dû mettre la main à la poche. La Ligue, elle, est allée frapper aux portes des banques et est revenue avec un prêt de 224,5 millions d'euros, garanti par l'État. C'est grâce à ces liquidités que les clubs français ont pu payer les salaires. Les clubs français n'en sont pas fiers, mais ils ont eux aussi multiplié les prêts garantis par l'État en direct. La situation est bien résumée devant le Sénat par le président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune.
Schématiquement, au niveau macroéconomique, les grandes masses, c'est 1,8 milliard d'euros de pertes pour les clubs depuis 2019. Il y a eu sur la même période environ 700 millions d'euros d'augmentation de capital procédée par les clubs et environ 500 millions d'euros d'apport en compte courant par les actionnaires qui jouent leur rôle, mais on voit que le compte n'y est pas.
Les actionnaires et propriétaires de clubs sont ressortis de ces deux années essorés et certains très affaiblis financièrement après avoir remis au pot à plusieurs reprises. Et alors qu'ils pouvaient espérer un rebond, hélas, le nouveau contrat de droits télé signé avec Amazon et Canal+, est loin d'être le jackpot espéré. 660 millions d'euros. Jusqu'en 2024, soit moitié moins que ce que promettait Mediapro. Au vu de la situation, pas mal de propriétaires sont prêts à céder leur club en cas d'offre intéressante.
Bon alors, que viennent faire ces investisseurs et familles américains dans le soccer français qui semble si mal se porter?
C'est vrai que sur le papier, c'est vraiment très étonnant. Le football est loin d'être le sport le plus populaire aux États-Unis, surtout chez les hommes. Il est devancé par le basket, le baseball ou même le hockey sur glace. Des sports qui ont réussi à se construire des notoriétés et des business ultra rentables grâce à un système de franchises et de ligues fermées. La NBA en basket, la NFL en football américain, la MLB en baseball. Ces sports ont conquis la planète entière, avec toujours les mêmes équipes. Les Chicago Bulls, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Dodgers de Los Angeles par exemple. Et la raison est simple, ils ont construit une marque et une récurrence car chaque saison, ce sont les mêmes équipes qui se disputent le titre. En Europe, au contraire, le système sportif est pyramidal. Chaque saison, les meilleurs d'une division peuvent accéder à celle du dessus. Et les derniers descendent dans la division inférieure. Il faut savoir qu'historiquement, en France, détenir un club de foot était vu comme une activité pour riches hommes d'affaires, cherchant à gagner de l'influence, pas comme un moyen de gagner de l'argent. En France, on sait qu'avoir un club de foot, ça nous fera perdre de l'argent personnel. Et on le fait pour le pouvoir, la passion, l'ego. Aux États-Unis, un club fait totalement partie de l'industrie du divertissement.
Ce qu'il y a de bien à l'Olympique de Marseille, c'est qu'on gagne pas beaucoup d'argent, mais on rigole bien.
Aux États-Unis, une franchise, ça gagne de l'argent d'abord et ça gagne des titres ensuite. La franchise de football américaine des Dallas Cowboys est désormais valorisée à près de 8 milliards de dollars selon le magazine américain Forbes. La franchise la plus chère au monde, alors que son dernier titre remonte à 1995. Les Dallas Cowboys sont une véritable machine à cash, avec près d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2021 pour 466 millions de dollars de bénéfices. Un résultat qui ferait pâlir d'envie n'importe quel club de Ligue 1, très difficilement à l'équilibre chaque année. Comme en France, ce sont les droits télé qui représentent une grande partie des résultats. Le championnat de football américain, la NFL, a signé en mai 2021 un méga deal de 110 milliards de dollars pour les droits télé de la compétition sur une durée de 11 ans. CBS, NBC, Fox, ESPN et Amazon sont les heureux élus. Signe que le succès des Cowboys n'est pas isolé, 16 des 32 équipes de NFL valent au moins 4 milliards de dollars. Les propriétaires américains de franchises ont réussi à rendre leur investissement ultra rentable. Logiquement, ils s'intéressent à l'Europe désormais et au sport le plus populaire de la planète, le football, pour lesquels ils pensent qu'ils pourront appliquer leur savoir-faire, notamment en termes de notoriété internationale. Les franchises américaines ont réussi à construire une marque forte à l'étranger. Elles comptent de nombreux fans aux États-Unis, mais également en Asie ou en Europe, ce qui permet d'augmenter les droits télé à l'étranger, mais également les ventes de maillots et de produits dérivés. J'ai appelé Luc Arondel, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'économie du football, pour comprendre ce que viennent faire ces investisseurs américains. Il vient de terminer une mise à jour de son livre avec Richard Duhautois, L'argent du football.
les Américains à la conquête de l'Ouest européen, quoi. C'est vrai que ça existe depuis longtemps, hein, je crois. Bon, bah oui, vous avez la famille Glazer qui est à Manchester United depuis très longtemps, mais ce qu'on voit, c'est que ça s'est accéléré depuis 3-4 ans, ça s'est énormément accéléré. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors vous citiez la Premier League, mais il n'y a pas que la Premier League, hein, vous avez aussi la Championship qui est pas mal investie par les Américains. Vous avez aussi des clubs dans les divisions professionnelles inférieures aussi, la Liga 1 et la Liga 2. Vous avez en tout, je crois, vous avez 9 équipes de Premier League et club de Championship, donc c'est la première destination des investissements américains. L'Italie, je crois qu'effectivement, c'est 5 de Serie A et 6 de Serie B aussi. Il n'y a pas que les équipes de première division. Hein.
Les Américains se sont d'abord intéressés à l'Angleterre. C'est la Rolls-Royce du football européen. La ligue qui a le mieux réussi à se développer, permettant aujourd'hui d'attirer les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs. Rien que pour les droits télé en Angleterre, Sky, BT Sport et Amazon Prime règlent chaque année 5,2 milliards d'euros. Manchester United a été racheté par la famille Glazer en 2005 pour 1 milliard d'euros. Il a été suivi en 2011 par Arsenal, où l'homme d'affaires Stan Kroenke a acquis la majorité du club, valorisé alors 825 millions d'euros. Plus récemment, c'est Chelsea qui a été vendu du russe Roman Abramovich à Todd Boehly pour 5 milliards d'euros.
Roman Abramovich a confirmé hier la mise en vente du club après plusieurs jours de spéculation. Cette décision, explique-t-il, a été prise dans l'intérêt du club, des fans, des employés ainsi que des sponsors et des partenaires. Ça, c'est pour la déclaration officielle. Mais selon le quotidien britannique The Telegraph, Abramovich redoutait surtout d'éventuelles sanctions, même si pour l'instant il avait été épargné par l'Union européenne. C'est un proche conseiller et ami du président russe Vladimir Poutine. La Grande-Bretagne avait la possibilité de bloquer ses comptes et de saisir. C'est bien.
Tous ces achats sont l'œuvre de riches familles qui tablent sur un investissement rentable à moyen ou long terme. Outre de riches hommes d'affaires, des fonds d'investissement sont également à l'œuvre dans le football. Leur but est le même, gagner de l'argent, sauf que la temporalité est souvent plus réduite. Ils veulent augmenter leur mise sur une période de 4 ou 5 ans. Et la France a un grand avantage comparé à la Première Ligue anglaise. Ces clubs sont en difficulté, donc moins chers. Une aubaine quand on veut gagner de l'argent rapidement, la mise de départ étant bien plus faible. Toulouse, qui vient de monter en Ligue 1, a été racheté en 2020 par Redbird Capital Partners pour une vingtaine de millions d'euros. Rien à voir avec le montant réglé pour Chelsea. Ce fonds américain détient également le Milan AC depuis cet été, racheté pour 1,2 milliard d'euros. Le Red Star, club emblématique de la banlieue nord de Paris, qui évolue en national, a lui été racheté en mai dernier par le fonds 777 Partners pour une quinzaine de millions d'euros. Et Angers a failli être racheté cet été par un fonds américain, la Global Football Corporation, avant de renoncer car les fonds n'ont pas pu être réunis.
Beaucoup d'investisseurs américains pensent que les clubs en Europe sont sous-évalués par rapport aux franchises américaines, par exemple. Les franchises américaines, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand même assez cher. Le coût d'entrée est quand même assez cher. Beaucoup plus que certains clubs français, notamment des clubs de deuxième division, quoi. Je pense que les gens, effectivement, les fonds ou les investisseurs américains, bon, investissent dans des clubs de deuxième division parce que, un, bon, il y a la formation. Alors, si on prend la France, hein, vous avez quand même un système de formation qui est relativement réputé. Vous avez aussi la possibilité que les clubs remontent en première division. Ça a été le cas de Toulouse, par exemple. C'est souvent plus facile de changer les méthodes de gestion dans les petits clubs.
Mais justement, ce système où les clubs peuvent monter et descendre, c'est un gros risque pour eux.
Complètement. Ça accroît l'aléa et donc l'incertitude d'une bonne rentabilité. Si un club fait une mauvaise saison, il descend dans la division inférieure et ses revenus de droits télé et de billetterie chutent. À l'inverse, s'il fait une bonne saison en Ligue 2 par exemple, il pourra prétendre à la première division et augmenter sa valeur.
Et le plus important, c'est les 3 points.
Alors pourquoi ils n'investissent pas ailleurs dans le football ? Aux États-Unis par exemple ?
En Europe, les championnats sont bien moins régulés qu'outre-Atlantique. Là-bas, la masse salariale globale des clubs est plafonnée. En MLS, le championnat de ballon rond américain, le salaire des joueurs est capé. On appelle ça, justement, le salary cap. Être le plus riche n'est pas un avantage décisif pour un propriétaire. Les clubs ne sont pas totalement libres de recruter les joueurs. Ils doivent passer par des systèmes contraints, appelés des drafts.
Tu sais combien je te paye là pour jouer avec tes pieds ?
Aux États-Unis, les clubs se réunissent une fois par an afin de choisir qui recruter parmi les jeunes joueurs, répartis selon leur niveau en différentes catégories. Et c'est très égalitaire. Chaque club décide de recruter un joueur parmi ceux qui sont encore disponibles. Et les clubs qui ont les premiers choix sont les clubs qui ont été les moins bien classés la saison précédente.
Plouf plouf, ce sera toi qui iras le premier.
Ce qui différencie aussi les ligues européennes des sports américains, c'est qu'il est possible de réaliser d'importantes plus-values financières en cas de transfert d'un joueur d'un club à un autre. C'est particulièrement intéressant pour la France, qui dispose de très bons centres de formation. En 2022, 1219 Brésiliens sont partis à l'étranger contre 978 tricolores, selon les chiffres de l'Observatoire du football, le CIES. La France est un réservoir de pépites, pour lesquelles de nombreux pays européens sont prêts à payer cher. Le français Aurélien Tchouaméni a par exemple été vendu 100 millions d'euros cet été par l'AS Monaco au Real Madrid.
Contrairement aux États-Unis aussi, puisque il n'y a pas de transfert aux États-Unis. Il y a le fait qu'en Europe, effectivement, il y a un marché des transferts sur lequel vous pouvez faire des plus-values sur les joueurs, ça c'est clair. Donc avec leur méthode, avec leur rationalité un petit peu sur les méthodes, avec finalement cette culture du moneyball qui a été importée du baseball, c'est ça. C'est-à-dire essayer d'appliquer cette logique d'essayer de repérer les joueurs sous-évalués pour pouvoir les revendre plus tard.
Outre les transferts, les investisseurs américains en Ligue 1 tablent sur l'augmentation de la valeur des droits télé en France. Il y aura un nouvel appel d'offres à partir de 2023 en Ligue 1 pour les droits nationaux. Mais c'est surtout les droits internationaux qui cristallisent cet espoir d'augmentation. Actuellement, beIN Sports commercialise ses droits pour un montant jugé très faible par les experts, de l'ordre de 75 millions d'euros par saison. Avec Mbappé, Neymar et Messi, rien qu'au PSG, la Ligue de football professionnel espère à l'avenir augmenter très fortement ses droits. On the floor of Wall Street, I'm one of a kind. If I sell or I buy, I don't even try. I can make $1 million in the blink of an eye. Surtout, elle a vendu une partie de la société commerciale qui gère les droits télé de la Ligue 1 à un fonds d'investissement luxembourgeois CVC contre un chèque de 1,5 milliard d'euros. Un moyen de faire rentrer de l'argent frais tout en espérant professionnaliser la commercialisation de ses droits à l'étranger. Reste que le football est un sport et que le succès est éminemment aléatoire. À Bordeaux, l'histoire ne s'est pas déroulée comme prévu. En 2018, le fonds américain GACP et King Street rachètent les Girondins de Bordeaux à M6 pour 75 millions d'euros. Sauf qu'en avril 2021, à peine 3 ans plus tard, King Street déclare ne plus vouloir continuer à financer le club, le plaçant sous la protection du tribunal de commerce. Descendu en Ligue 2 cette saison, Bordeaux a failli faire faillite, le club n'ayant pas les moyens d'honorer ses engagements financiers. Maintenu in extremis en deuxième division, Bordeaux a licencié cet été 70 salariés sur les 300 que compte le club.
Et c'est vrai qu'a priori, on peut penser que Bordeaux, voilà, peut-être que le calcul qu'ils ont fait, c'est quoi ? C'est Bordeaux, les vins, c'est quand même une région qui est symbolique, qui est connue dans le monde entier pour ses vins, etc. Donc bon, le calcul, c'est de dire, c'est intéressant d'investir à Bordeaux. Est-ce qu'ils avaient misé sur une rentabilité qui n'est pas arrivée ? Bon, est-ce qu'il y a eu des mauvais choix sportifs ? Si vous attendez une rentabilité à moyen terme, et si cette rentabilité, pour différentes raisons, ne vient pas, vous avez toujours la possibilité de vous retirer, donc ça peut être dommageable pour le club.
À moyen terme, est-ce que ces rachats ne vont pas nuire au club de foot ?
C'est difficile à dire. Ces rachats multiples renforcent la financiarisation du football. Si l'arrêt Bosman de 95 avait fait entrer le football européen dans son ère moderne, avec la fin du quota des joueurs étrangers pour chaque club, l'arrivée de fonds d'investisseurs achève sa transformation. Le club de football n'est souvent plus la propriété de ses supporters, qui sont pourtant essentiels à son développement. Il doit désormais servir à un projet d'investissement et permettre une plus-value en quelques années.
Alors, vous êtes venu pour jouer, bien sûr, mais pourquoi encore, dites-moi ?
Pour les sous-sous.
Souvent en détriment du projet sportif de long terme pour le club. Les ultras du Red Star ont eu beau se mobiliser au printemps contre la vente du club de Saint-Ouen au fonds américain 777 Capital Partners, la cession a tout de même eu lieu. Les fans du club centenaire à l'étoile rouge, résolument à gauche, devront supporter un club détenu par un fonds d'investissement américain. C'est le prix à payer pour avoir accès à des capitaux importants.
Putain, ça a été à une vitesse. On a perdu le contrôle et on s'est laissé dépasser.
En Angleterre, le prix des abonnements pour les supporters est en constante augmentation. Arsenal est le stade le plus cher de Premier League. Le club a augmenté cette année de 14% les abonnements les moins chers à 927 livres, les plus onéreux étant à plus de 2000 livres. Pour résumer, le risque pour un club est de perdre une partie de ce qui fait son âme, le soutien populaire de ses supporters.
En somme, les investisseurs américains ont bien compris que les clubs de foot sont des entreprises comme les autres. On peut les gérer selon une logique purement financière, dégager des profits lorsque la saison est bonne, et même profiter des largesses de l'État en temps de crise. Pas étonnant que ce soit des investissements attirants. Merci Adrien pour cet épisode passionnant. Si vous aussi vous l'avez apprécié, et plus généralement si vous aimez Splash, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Adrien Schwitter, en compagnie d'Emmanuel Martin. Chargé de production, Mathilde Jonin, avec l'aide de Xavier Kamaki. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Directrice des productions, Marion Gourdon.